Bon, on va commencer, excusez-nous, avec un peu de retard. Bienvenue à ces rencontres de l'Action internationale des collectivités territoriales. Cette fois-ci, on se retrouve pour un atelier sur les enjeux jeunesse dans le bassin méditerranéen. Merci d'être venus si nombreux. La séance est enregistrée, en tout cas l'audio, pour après se retrouver sur notre site internet. Donc, pour les intervenants, mais aussi pour les personnes qui prendront le micro pour poser des questions en fin de séance, je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire comme m'a dit la régie en mettant le micro bien près de la bouche. Je remercie tous nos intervenants pour la séance d'aujourd'hui. Pour les présenter, présenter à côté de moi, Flavie Boukenoufa, vous êtes l'adjointe à la maire de Rennes, en charge notamment des relations internationales. Et puis vous êtes la présidente du groupe thématique jeunesse à Cité Unie France. Et merci encore d'être là. À côté de moi, Pierre Revel, responsable territorial sud à France Volontaire. Merci d'être présent. Merci également à Delphine Benassi, vice-présidente de la région Centre-Val de Loire, en charge des relations internationales. Merci à Astrid Desjobert de l'Institut européen de coopération et de développement, directrice des partenariats. Et merci également à Maëlys Daboville, directrice d'Occitanie Coopération, et à Ada Bekouche, évidemment, adjoint au maire de Colombes et président du groupe Pays Tunisie. Donc, on va commencer. Je vous laisse, Flavie, vous qui êtes sur les enjeux jeunesse à Cité Unie France, est-ce que vous pouvez présenter le cadre de cet atelier. Merci.
Merci Thomas pour la préparation de cet atelier. Donc bienvenue à tous, merci pour votre mobilisation pour ce sujet. Donc effectivement, je suis vice-présidente de Cité Unie France et j'ai en charge jusqu'à ce mois-ci la thématique jeunesse EXI, donc au sein d'un groupe qui se positionne en transversalité. On va se concentrer cet après-midi sur les enjeux et les perspectives pour la jeunesse dans le bassin méditerranéen. Donc c'est un atelier qu'on vous propose pour réfléchir collectivement aux enjeux de coopération internationale de nos collectivités en matière de soutien spécifique aux jeunesses et notamment aux 15-30 ans. Ce qu'on peut constater, c'est que 15 à 30% des jeunes de 15-24 ans dans les pays méditerranéens ne sont engagés dans aucun parcours d'éducation ou de formation. Un quart des diplômés de l'enseignement supérieur ne trouvent pas d'emploi. Et c'est un constat d'autant plus criant quand 50% de la population dans ces pays du sud de la Méditerranée ont en réalité moins de 25 ans. Donc nos coopérations peuvent être un levier pour faciliter leur insertion professionnelle. Elles peuvent soutenir des mobilités internationales. On a pu travailler ce sujet notamment avec les missions locales en France pour voir comment on pouvait accompagner davantage de mobilité internationale pour mieux accueillir ici, mais aussi pour mieux accompagner des départs. Parce qu'on le sait, une mobilité internationale, elle permet une meilleure intégration socio-professionnelle. La plupart des grandes écoles et des parcours d'élite l'imposent d'ailleurs. Donc on doit pouvoir la souhaiter pour le plus grand nombre. Et puis elles peuvent aussi soutenir des dispositifs locaux pour agir concrètement pour une meilleure insertion socio-professionnelle sur les territoires. Et donc là aussi, on a un certain nombre d'exemples de coopération qui montrent comment on peut agir pour soutenir des dispositifs sur place. Donc nous vous proposons un atelier séquencé à partir d'un état des lieux qui va être porté par l'Institut européen de coopération et de développement qui propose des formations adaptées aux besoins du marché du travail local et notamment à un programme qui s'appelle MEDNC, Méditerranée Nouvelle Chance, et qui est spécialement conçu à destination des jeunes qui ne sont pas engagés dans des dispositifs d'éducation, de formation ou d'emploi. Et on vous propose aussi des témoignages donc, de collectivités et puis de France Volontaire, comme ça a été dit. N'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, à mettre en débat les sujets qui vont vous être proposés. N'hésitez pas aussi à proposer des témoignages complémentaires, puisque peut-être vos collectivités mènent depuis longtemps des coopérations sur ce sujet ou sont sur le point d'innover en la matière. Et donc effectivement, je laisserai mon collègue Ada conclure cet atelier enfin. Merci à tous.
Eh bien, merci beaucoup Flavie Boukenoufa. Pour les interventions, pour l'instant, on va se concentrer sur les enjeux d'insertion professionnelle, comme vous venez de le dire. Et justement, pour poursuivre dans cette dynamique, alors on connaît l'IECD, l'Institut européen de coopération et de développement, son expertise sur la jeunesse, l'éducation, la formation professionnelle, l'insertion professionnelle des jeunes. Alors vous qui intervenez beaucoup sur la rive sud de la Méditerranée, Astrid Desjobert, est-ce que vous pouvez justement nous dresser un état des lieux des enjeux d'insertion professionnelle des jeunes sur la rive sud de la Méditerranée, et puis aussi nous partager voilà, les méthodologies d'action de l'IECD, de son réseau Méditerranée Nouvelle Chance. Et voilà, ça. Merci d'avance, je vous laisse la parole.
Pour, bonjour à tous et à toutes. Pour commencer, je voudrais laisser la parole à une jeune voilà, qui représente les actions que nous menons et qui, je pense, représente bien l'ensemble de la jeunesse sur la rive sud. Voilà, donc c'est une jeune marocaine qui s'appelle Amina.
حسيت بواحد التغير كبير لانه في الاول كنت كنظن راسي ما غادي ندير والو ما غادي نوصل لحتى شي حاجه كنت فاقده الامل كليا عام باش حبست القرايه وما كنتش عارفه شنو ندير المدرسه ما كيتعاملش معك واحد المعامله اللي هي زوينه يعني يحسوك يعني باش يحس يزيدوا يشجعوك انك تكملي وديري واحد المستقبل اللي هو زوين بالعكس هما كيحطموك يلا حلو صافي دخلت انا هضرت مع الاستاذ رشيد يعني لقيت المعامله ديالهم زوينه واخا ما نكونش باغا هاد الدومين ندخل ليه على الاقل ما نبقاش باركه في الدار بغيت ندير شي حاجه يعني غندير واحد الشركه وتكون غير ديال البنات اول حاجه بغيت نوصل للشباب انه ما كاينش شي حاجه الا ما قلبتيش عليها غادي تجي عندك وتقول لك يعني خصك اصلا اول حاجه تحدد المسار ديال حياتك اشنو انت باغي
Donc les mots d'Amina sont assez forts, vous voyez, on part d'une situation d'une jeune complètement désespérée et qui à la fin, à bout d'une minute, nous dit qu'elle veut monter sa propre entreprise. Donc le passage est quand même l'évolution est assez fulgurante et ce que raconte Amina est assez représentatif des jeunes qui sont accompagnés dans les centres dits de nouvelle chance ou deuxième chance dans 10 pays méditerranéens sur la rive nord et la rive sud. Alors l'histoire a commencé à Marseille, où j'habite, et je me suis retrouvée dans le train à côté des représentants de la ville de Marseille. C'était intéressant, on a pu discuter au wagon-bar, et puis j'ai retrouvé aussi notre collègue de la région PACA. La première école de la deuxième chance est née à Marseille, et c'est en discutant avec des homologues tunisiens, marocains, algériens, de l'autre côté de la rive, qui ont eu un constat assez similaire sur ne pas savoir quoi proposer à ces jeunes décrocheurs, qu'ils ont noué un premier partenariat non officiel, je dirais, des échanges de bonnes pratiques. C'est comme ça que ce réseau Méditerranée Nouvelle Chance est né, des amitiés entre professionnels de l'éducation Nouvelle Chance. Et aujourd'hui, le réseau représente à peu près 340 centres et accompagne 55 000 jeunes. Alors 55 000 jeunes, ça paraît à la fois beaucoup et en même temps, c'est rien par rapport au, vous savez, hein, par exemple, en Tunisie, il y a 1 million de jeunes NEETS sur une population d'environ 11 millions. Voilà, le pourcentage est quand même assez élevé. À Casablanca, il y a à peu près 400 000 NEETS. Donc on est encore, nous, pas du tout satisfaits forcément du nombre de 55 000 jeunes. Néanmoins, l'évolution est assez intéressante. Sur la place qu'ont pris ces écoles de la deuxième chance dans les différents pays, à l'image de la France, où les écoles se sont fédérées et ont été reconnues par le ministère du Travail français. Et c'est ce modèle-là qui inspire les autres pays. Quand nous discutons avec le Royaume du Maroc, ces dernières années, ces écoles-là sont de plus en plus reconnues. L'enjeu maintenant, c'est qu'elles obtiennent un financement. L'école dont parle Amina est une école créée par une association que nous, IECD, nous avons soutenue et on aide des petites associations à créer des nouvelles filières, une nouvelle méthode pédagogique adaptée à ces jeunes-là. Donc on commence sur un principe associatif ou très local, mais en ayant en tête de s'associer aux collectivités au niveau régional et au niveau étatique. C'est vraiment l'objectif, c'est qu'on ait une solution à un niveau national. En Tunisie, on est très heureux d'avoir créé les premières écoles de la deuxième chance que nous avons inaugurées cette année sous décret présidentiel. Donc ça a été un travail très longuement mené avec le soutien de l'AFD, des projets de voilà, menés ensemble, associations et je dirais acteurs étatiques du ministère de la formation professionnelle en Tunisie, que nous avons invités à différents événements au Maroc, en Tunisie, en France, en Espagne, au Portugal. Au Portugal aussi, l'année dernière, les écoles de la deuxième chance, il y en a encore très très peu, il y en a à peu près 5, mais sont reconnues officiellement par le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est cette coopération méditerranéenne qui permet en fait ces avancées après à des niveaux nationaux. Les pays s'inspirent les uns et les autres. Et nous, en tant qu'association, on est là pour constater voilà, le besoin sur un terrain. On le fait savoir, on dialogue avec vous et puis après aussi avec les États et les bailleurs de fonds pour ensemble construire une solution qui soit adaptée au pays. L'intérêt aussi de ces dispositifs, c'est qu'ils sont très agiles pour absorber les innovations ou les enjeux d'actualité. Donc, par exemple, le climat. Nous, on va essayer d'identifier des filières porteuses sur ces enjeux climatiques. Est-ce qu'il y a des métiers nouveaux à inventer qu'on pourrait proposer à ces jeunes? Les enjeux numériques également. On discute avec la Fondation Orange pour créer des filières adaptées, qui sont des formations assez courtes. Il y a beaucoup de nouveaux métiers qu'on va créer. Et c'est vrai que ces écoles de deuxième chance arrivent plus facilement à créer des nouvelles filières qui ne sont pas forcément diplômantes que le système classique. Et donc, ce sont un peu des laboratoires d'innovation très agiles. Voilà, pour vous donner quelques exemples avec le travail avec les collectivités, on a travaillé donc avec le soutien de la région PACA, donc, par exemple au Liban, en Égypte, sur des filières électricité, photovoltaïque, avec la région Île-de-France aussi. En Tunisie, en ce moment, on discute sur une nouvelle filière que nous avons créée. Alors en Tunisie, je serais intéressée d'avoir votre avis, monsieur. Vous connaissez bien. Est-ce que vous saviez qu'il n'y a pas de formation professionnelle officielle en boulangerie? Le métier de boulanger en Tunisie, alors que le pain est quand même une consommation courante, est transmis voilà, de père en fils. Il y a quelques formations, mais il n'y a pas vraiment des formations professionnelles reconnues, en tout cas des recruteurs. Donc on travaille par exemple avec Monoprix, qui va recruter nos jeunes. Et donc voilà, ça c'est un exemple pour vous donner. C'est assez pragmatique, mais il y a finalement, on se rend compte, en tout cas nous opérateurs de terrain, on pense qu'il y a beaucoup de filières professionnelles qui manquent sur le terrain, qui pourraient être créées et qui répondent aux besoins de ces jeunes. Je voudrais juste terminer pour mon intervention en disant que on connaît les chiffres de chômage, de nombre de NEETs qui sont assez alarmants. On sait peu souvent les raisons qui poussent ces jeunes à décrocher. Amina l'a un petit peu dit, voilà, à l'école, elle ne trouvait pas vraiment de motivation. Et nous, on a mené une étude pour que notre action corresponde vraiment à ces enjeux-là. La plupart des jeunes qui décrochent, que ce soit sur la rive nord ou sud, décrochent par volonté de travailler ou par nécessité de travailler pour amener un salaire. Beaucoup, nous, on a proposé des formations longues de 1 an, 2 ans. Les jeunes décrochent, abandonnent parce qu'en fait, le peu de formation qu'ils ont eu leur permet d'avoir un métier qui vont les satisfaire. Et donc voilà, déjà, il y a peut-être une image à changer sur cette jeunesse qui est vraiment, à chaque fois, nous, on est assez bluffés, hein, veut avoir sa chance. Et mon dernier point, mais c'est la force vraiment du collectif qui, nous, en quel on croit beaucoup. On en parlait avec ma voisine sur les échanges d'expertise entre les pays, les échanges entre jeunes, entre formateurs aussi. Les uns et les autres s'inspirent. Et ils ont vraiment besoin de ça. Et on sait que la baisse budgétaire va tous nous impacter. Mais si on peut au moins voilà, allier nos forces pour faire passer des messages aussi sur ce qui nous paraît vraiment prioritaire, porter la voix de ces jeunes, des formateurs à des événements, vous voyez, comme des vidéos, ça, c'est des choses auxquelles, qui changent vraiment, je pense, la vie de ces jeunes. Merci beaucoup et je serai disponible pour vos questions.
Merci beaucoup, Astrid Desjobert. Et pour continuer justement sur cette lancée très concrète d'actions possibles à mettre en place, est-ce que justement Delphine Benassi, vous qui êtes vice-présidente de la région Centre-Val-de-Loire, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait dans le cadre de votre coopération avec la région FES-MECNES dans le domaine du social, justement un projet en réciprocité sur les jeunes et l'insertion professionnelle? Je vous en prie, merci.
Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Très heureuse d'être avec vous cet après-midi pour évoquer En effet, cette coopération décentralisée que nous avons avec la région Fès-Meknès au Maroc, donc une de nos 7 régions partenaires dans le monde, et une coopération particulièrement dynamique. Donc elle est née en 2009, d'abord avec la région Meknès-Tafilalet, et puis depuis 2016, et la reconfiguration des régions marocaines. Donc nous sommes en lien avec la région Fès-Meknès. Cette coopération, elle a trois axes identifiés, la question du développement local, celui de la transition écologique et puis celui de la jeunesse, de la formation, de la culture et de la démocratie locale. Et donc c'est plutôt sur ce dernier axe évidemment que notre programme d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes et à la formation en travail social ce projet s'est développé. Cette coopération elle se traduit par la présence d'une volontaire de solidarité internationale, voilà, qui est basée dans les locaux du conseil régional de Fès-Meknès et qui fait le lien entre nos deux régions, mais aussi entre les acteurs qui travaillent en coopération les uns avec les autres sur les différentes thématiques que j'ai pu évoquer. Et puis, ce dynamisme aussi, il se traduit par le fait que notre président de région, François Bonneau, est président du groupe Pays Maroc à CUF. Alors, ce programme d'appui, vous en dire quelques mots un peu pratiques. Donc, il est soutenu par le Fonds de soutien franco-marocain, donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et puis le ministère de l'Intérieur marocain, à hauteur de 36 000 euros à peu près. Il devait se tenir sur une année, de fin octobre 2022 à fin octobre 2023. Il a pris un peu de retard du fait des tensions diplomatiques l'année dernière entre la France et le Maroc qui ont impacté en fait notre coopération. Vous en dire un peu plus sur le fond, l'idée c'était de répondre à des besoins communs du secteur du travail social qui avait été identifié par des professionnels à la fois marocains, des établissements d'enseignement, de formation professionnelle, mais aussi des organismes d'accueil ou d'hébergement de jeunes. Des besoins qui concernaient la question de l'attractivité des métiers, en fait, donc des professions plutôt en tension, et puis avec des besoins d'évolution des pratiques pour tendre vers un accompagnement plus individualisé des personnes, avec une demande ou un besoin d'accompagnement social en augmentation de part et d'autre, hein, en France comme au Maroc, avec les questions de vieillissement démographique, mais aussi d'inégalités croissantes, et puis au Maroc notamment, un nombre de jeunes, comme ça a été dit, avec un besoin d'accompagnement social, socio-professionnel, en hausse. Donc certaines des structures identifiées dans notre région et dans celle de Fès-Meknès avaient déjà des relations entre elles, et leur souhait c'était d'approfondir ces relations, ces partenariats, et le faire notamment en passant par l'accueil de jeunes en service civique international, ce qui répondait à la fois à leur propre besoin d'échange et d'ouverture, mais aussi à la possibilité pour des jeunes de découvrir les métiers du travail social et de pouvoir peut-être s'y engager professionnellement après avoir réalisé cette mission de service civique. Donc il y avait vraiment ces deux axes. D'abord, donc l'accueil de 4 jeunes, deux marocaines et deux françaises, sur 8 mois, dans soit les structures de formation, soit les structures d'accueil et d'hébergement de jeunes. Donc elles ont été accompagnées pour ça, à la fois par le bureau de France Volontaire au Maroc, mais aussi par notre réseau régional multi-acteurs en Centre-Val de Loire, Centraider, qui ont favorisé la préparation au départ et puis permis de faire des points, des bilans intermédiaires collectifs entre les quatre volontaires et puis une restitution finale avec un bilan de 2 jours pour vraiment faire le point sur les apports de cette mission pour les jeunes. Et puis le deuxième axe, c'était le développement d'échanges et le renforcement des capacités des travailleurs sociaux via des mobilités de professionnels, mais aussi des échanges en visio. Voilà, donc ça, cet axe-là a pris un peu de retard, mais va se réaliser là cette année. Donc l'idée c'était d'échanger sur les pratiques professionnelles, sur les modalités pédagogiques, les pratiques d'enseignement pour ouvrir des possibles en ayant connaissance d'un autre contexte socio-économique et de modalités d'accompagnement qui peuvent être diverses et venir enrichir les propres offres de à la fois de formation mais aussi d'accompagnement social dans les deux pays. Et puis l'enjeu, c'était aussi, à travers cette interconnaissance, de pouvoir développer des lieux de stage pour les étudiants de chacun des organismes de formation, des lieux de stage donc dans la région partenaire, et donc permettre à la fois une expérience professionnelle, mais aussi une ouverture interculturelle qui est au cœur de ce projet. Il y avait 2 structures de formation au Maroc et 2 structures d'accueil de jeunes en difficulté. Et en France, 2 structures de formation et 1 structure d'accueil de jeunes. Les grandes lignes. Pour faire une petite analyse en fait des points positifs et puis peut-être des points d'amélioration, dire que le fait de passer par un accord de coopération décentralisée pour travailler sur ces enjeux d'insertion professionnelle des jeunes, donc ça permet à la fois d'avoir des moyens pour permettre à des structures de travailler ensemble, donc à travers le fonds conjoint, le fonds de soutien. Pour les jeunes, évidemment, une expérience interculturelle qu'elle n'aurait une opportunité en fait de départ qu'elle n'aurait peut-être pas eu autrement, le fait de travailler avec des partenaires, donc d'avoir un accueil vraiment et un accompagnement riche, un encadrement pour ces jeunes qui partaient de leur pays, quittaient leur famille pour la première fois, c'était sécurisant, enfin ce cadre était plutôt sécurisant. Le fait de travailler avec des partenaires, ça a permis aussi aux jeunes et de le faire dans ce cadre-là d'obtenir des visas, ce qui n'est pas la moindre des choses. Évidemment, d'avoir une réelle opportunité de départ et d'expérience. Pour les structures évidemment de formation, de pouvoir faire évoluer leur offre, comme je le disais tout à l'heure, donc un enrichissement de l'offre de formation, des pratiques, etc. Et puis après, sur les difficultés qu'on a pu rencontrer, comme je disais tout à l'heure, donc on voit que le poids de l'État central est encore important dans certains contextes, comme je disais, les difficultés de relations diplomatiques entre nos deux États ont eu un impact fort, puisque nos relations ont été suspendues pendant un temps avec la région Fès-Mektès, qui a mis un frein vraiment à ce projet-là. Et heureusement, il a pu redémarrer et se poursuivre. Il va pouvoir être mené à son terme, et on en est très heureux. Et puis peut-être bah, se dire que voilà, l'impact réel sur les jeunes peut paraître limité, puisque concrètement, c'est 4 jeunes qui ont pu partir en service civique. Après, et puis c'est, les jeunes étaient déjà dans des parcours étudiantes, donc ce n'est pas exactement la population cible de jeunes qui sont ni en emploi ou ni en formation qui a pu être atteinte, mais c'est bon, voilà, relativement difficile d'atteindre cette cible-là. Après, le projet était aussi limité dans le temps, avec un financement sur un an. L'enjeu, ça va être de pérenniser les relations entre les différentes structures avec la signature de conventions de partenariat pour permettre ces échanges dont je parlais, donc entre professionnels mais aussi entre étudiants, et avoir des lieux de stage. Et là, on aura un impact fort, puisque voilà, ça permettra aux étudiants en travail social de pouvoir découvrir d'autres contextes et peut-être venir conforter leur choix professionnel et puis leur permettre l'acquisition de compétences qui sont celles de la mobilité internationale, les compétences d'adaptation, etc. Donc ça sera quelque chose d'assez fort. Et puis on compte aussi sur les volontaires en service civique pour évidemment raconter leur expérience et mobiliser d'autres jeunes et donner envie à d'autres jeunes de pouvoir vivre une telle expérience. Voilà, en quelques mots, ce que je pouvais raconter sur ce beau projet.
Ben, merci beaucoup, Mme Benassi. Justement, n'hésitez pas à la fin à apporter vos propres témoignages sur vos actions sur l'insertion pour celle des jeunes. Alors, quand on parle d'insertion professionnelle des jeunes, de jeunesse, France Volontaire n'est pas loin. Pierre Revel, vous qui êtes responsable territorial Sud et qui avez une bonne vision de ce qui se fait, des outils proposés par France Volontaire dans le bassin méditerranéen, est-ce que vous pouvez nous parler de ces outils-là à disposition des collectivités? Et globalement, voilà, je vous en prie.
Merci. Donc peut-être en deux mots, rappeler pour ceux qui ne connaissent pas France Volontaire, dire que nous sommes la plateforme française chargée de soutenir le développement du volontariat international en lien avec les pays hors Union européenne. Nous sommes une plateforme parce que sont membres de France Volontaire à la fois les pouvoirs publics, à commencer par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dont on est un des opérateurs, mais aussi un certain nombre de collectivités, de réseaux de collectivités, comme Cités Unies France, sont membres de France Volontaire. La région... Centre-Val de Loire aussi, de même qu'un certain nombre d'autres régions. Et puis dans le collège des territoires, nous avons aussi les réseaux régionaux multi-acteurs. Dans un instant aussi, Malice Daboville, qui représente Occitanie Coopération, pourra en parler mieux que moi. Et un large aussi collège d'associations, d'éducation populaire, de solidarité internationale et bien sûr de volontariat international. Nous sommes présents dans une vingtaine de pays répartis sur les différents continents et en Méditerranée, notamment au Maroc, en Tunisie et donc encore là au Liban. Voilà. En matière de volontariat, pour ceux qui ne sont pas familiers du volontariat international, c'est vrai qu'il existe différents dispositifs de volontariat. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais peut-être qu'il est important de distinguer entre des activités volontaires de courte durée, où là on est face à des volontaires bénévoles, de services volontaires de moyenne ou longue durée, où les volontaires, dans ce cas, sont indemnisés de par la longueur de la mission. En matière de volontariat, il existe des dispositifs ouverts à tous. En particulier le service civique a déjà été évoqué, mais aussi sur un plan européen, mais qui vaut aussi pour les pays du voisinage, donc pour la Méditerranée, le corps européen de solidarité qui est géré par l'agence Erasmus Plus Jeunesse et Sport et qui elle-même est intégrée à l'agence du service civique, qui a son stand sur les RAICT, de même que France Volontaire. Ça c'est donc des formes de volontariat de moyenne longue durée ouvert à tous. On a aussi sur de la courte durée des pratiques de chantier de solidarité internationale. Bien sûr, en termes d'impact pour l'insertion socioprofessionnelle des jeunes, c'est moins fort qu'un un service volontaire qui va durer plusieurs mois et jusqu'à un an. Mais néanmoins, ça peut jouer quand même un rôle de déclic non négligeable. Et en matière de volontariat aussi, on a au costume aussi d'envisager les choses en termes de parcours. Souvent, la participation à un projet de chantier de solidarité internationale avec des dispositifs dédiés qui sont aussi soutenus par le ministère, comme le programme Jeunesse Solidarité Internationale, également soutenu par les différents RRMA. Je vois aussi dans la salle également territoire solidaire vers le fond, Louison. Ces dispositifs-là aussi ont leur importance. Donc, programme jeunesse, solidarité internationale pour de la courte durée. Et à l'autre bout du spectre du volontariat international, en conjuguant à la fois longue durée, mais aussi volontariat de compétences, on a aussi le volontariat de solidarité internationale. Aujourd'hui, tous ces dispositifs, qu'ils soient de courte ou de longue durée, ouverts à tous ou nécessitant des compétences particulières, fonctionnent dans les deux sens, envoi et accueil. Donc, ce qui permet justement de faire du volontariat international non seulement un outil au service de politique jeunesse, mais aussi un outil au service des coopérations décentralisées, de coopérations aussi entre les partenariats interassociatifs. Et comme ça a été dit un petit peu tout à l'heure aussi, le volontariat, de par la conjugaison de l'envoi et de l'accueil, permet de travailler aussi à des échanges d'expériences, si bien que finalement les bénéficiaires aussi sont pas uniquement les jeunes qui bénéficient de cette expérience de la mobilité, mais aussi les structures qui les accueillent. Il peut là y avoir effectivement, ces échanges d'expériences peuvent évidemment participer au renforcement des compétences des différents acteurs et pourquoi pas aussi à l'élaboration de politiques jeunesse de plus grande ampleur. Au niveau des impacts, ça a été un petit peu esquissé, bien sûr. Donc, il y a tout ce qu'on appelle les fameuses soft skills. Donc, avec, je ne vais pas la détailler, vous savez ce dont il est question, mais on a aussi évidemment des compétences techniques en matière de gestion de projet, en matière de compétences linguistiques, le développement aussi d'un réseau professionnel international qui peut être utile aux anciens volontaires pour rebondir par la suite. Les enquêtes, ou en tout cas le suivi de devenir des jeunes anciens volontaires que l'on essaye de mener. Là aussi, c'est un vrai sujet en soi, puisque dès lors que les volontaires terminent leur contrat, bah évidemment, mettre en place un suivi post-volontariat, c'est fort utile, mais ça a un coût. Et bien souvent, un certain nombre d'impacts se révèlent qu'au bout de plusieurs mois, voire davantage. Donc, il y a effectivement aussi les moyens qu'on peut arriver à mobiliser pour mener un suivi au long cours, pour bien mesurer effectivement l'impact de ces expériences. Donc, on essaye de le faire grâce aussi à nos espaces volontariats, je le disais, présents au Maroc, en Tunisie, au Liban. On voit effectivement les données qui restent parcellaires que l'on a, mais que on a un nombre quand même important de sorties positives. Le retour que j'ai sur le Maroc sur qui porte donc sur plusieurs dizaines de volontaires, on a quand même 80% de sorties positives. Ça peut être certes des reprises d'études, ça peut être aussi des jeunes qui arrivent effectivement décrocher un emploi salarié ou même créer leur propre activité ou leur propre association. On a vu ça dans un certain nombre de cas avec des volontaires tunisiens notamment qui leur retour d'une expérience de service civique en France ont pu créer une association des associations en Tunisie. En termes, pour donner un ordre de grandeur un petit peu, c'est vrai que ça reste là aussi modeste. C'est vrai qu'on est sur des effectifs qui restent encore trop peu importants, hein, mais comme je le disais, au-delà du jeune qui a l'expérience de mobilité, il y a un impact plus large sur des territoires, des structures, qui est aussi à prendre en compte. On a, je pense, en tenant compte du Maroc, du Liban et de la Tunisie, on reste quand même chaque année avec les dispositifs, notamment en focalisant sur le dispositif du service civique uniquement, à effectivement à peu près une soixantaine de jeunes qui bénéficient de cette expérience-là en France de service civique réciprocité. À ces jeunes-là, il faut ajouter aussi ceux qui viennent en France dans le cadre du corps européen de solidarité, voire désormais dans le cadre du VSI qui effectivement se développe. Là, effectivement, c'est vrai que c'est des jeunes avec davantage de compétences, mais voilà, c'est quand même quelque chose là à noter. Les acteurs justement de ces missions de ces missions de volontariat proposées aux jeunes du sud de la Méditerranée, ils sont pluriels, ils sont de nature différente. On a des associations évidemment qui ont un rôle actif, notamment celles réunies au travers du réseau Euromed France, avec aussi le programme Jeunes des Deux Rives. Là, on est sur du volontariat de courte durée, avec les pratiques notamment de chantiers de solidarité internationale qui ont pu bénéficier à 500 jeunes ces dernières années. On a aussi les ambassades de France et les institutions instituts français qui peuvent avoir une action aussi de soutien au volontariat international. Je pense en particulier à l'Institut français de Tunisie qui depuis plusieurs années, au travers son programme Réciprocité Tunisie, soutient la venue en France de volontaires tunisiens auprès de différentes structures associatives en France. Une quarantaine de jeunes ont pu en bénéficier. On a bien sûr les collectivités, donc vous avez eu l'exemple de la région Centre-Val de Loire, mais il y en a beaucoup plus au sein uniquement du programme territoire volontaire coordonné par France Volontaire avec le soutien de la DCT-CIV. On aura un petit focus sur ce programme demain matin à 9h donc en lien avec l'Agence du Service Civique. On a depuis 3 appels à manifestation d'intérêt. On a donc 3 ans, on a une dizaine de collectivités qui ont mobilisé des volontaires uniquement en lien avec les pays de la Méditerranée, conjuguant envoi et accueil, avec du coup 8 régions représentées, des départements, des conseils régionaux, des communes également. Et c'est là voilà, un point aussi important que je souhaitais souligner. Et concernant notre programme dans le territoire volontaire, le prochain AMI aura lieu début 2025. Voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous. Comme ça a été dit, effectivement, dans le cadre de ces services volontaires, en particulier de moyenne longue durée avec le service civique, avec le Corps européen de solidarité et le VSI, on a des visas spécifiques qui sont prévus et qui sont délivrés avec plus de facilité en tout cas que lorsqu'on est hors dispositif. Donc ça fonctionne quand même assez bien. C'est là aussi un point important à noter. Voilà, quelques éléments que je voulais partager avec vous. Merci.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre Revel. Dans un autre registre, est-ce que Maëlys Daboville, vous pouvez nous parler de ce que Occitanie Coopération fait justement sur l'employabilité des jeunes avec les missions locales?
Merci. Oui, tout à fait. Je vais juste rappeler très très rapidement pour ceux qui connaissent pas les réseaux régionaux multi-acteurs de quoi il s'agit. En fait, ce sont des réseaux qui sont implantés dans chaque région de France et qui sont soutenus par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et généralement leur région respective, plus les collectivités territoriales, les agences de l'eau, voilà, différents partenaires, et avec comme objectif en fait de fédérer à l'échelle d'un territoire régional l'ensemble des acteurs qui agissent dans le champ de la coopération et de la solidarité internationale, et donc qui regroupent en leur sein les collectivités territoriales, les acteurs associatifs, les universités, parfois des acteurs économiques également. Voilà, et on est on travaille aussi en réseau des réseaux. On est réunis autour de la CIRMA, la conférence interrégionale des réseaux régionaux multi-acteurs. Et donc actuellement, il y a 12 réseaux des réseaux qui sont potentiellement en développement sur les territoires ultramarins. Effectivement, la question de la jeunesse au sein des réseaux régionaux multi-acteurs et notamment au sein d'Occitanie Coopération est vraiment un axe de travail, je dirais, qui est bien ancré dans nos actions. Et on travaille, comme le disait Pierre, sur cette notion de parcours, en travaillant à la fois sur les questions d'éducation à la citoyenneté mondiale sur nos territoires, en développant un certain nombre d'actions, notamment en milieu scolaire ou de sensibilisation des jeunes sur les grands enjeux mondiaux. Et puis d'essayer de développer justement tous les dispositifs que Pierre a évoqués tout à l'heure qui permettent en fait de construire cette notion de parcours pour les jeunes. Donc effectivement avec la mobilité collective au départ, parce que c'est parfois difficile de partir tout seul dans un pays qu'on connaît pas, avec les chantiers de jeunes, les JSI, VVSI. Ensuite le service civique à l'international, soit des missions éventuellement sur notre territoire où on accueille des jeunes, comme a pu le faire s'entraider avec la région Centre-Val de Loire, possibilité d'accueillir des volontaires, des jeunes issus des territoires de coopération, soit des jeunes de nos territoires évidemment qui vont effectuer des missions de service civique. Et l'intérêt qu'on a, c'est que le fait que justement on soit en réseau et qu'on connaisse et qu'on travaille au quotidien en fait avec les acteurs de nos territoires, que ce soit les collectivités territoriales qui ont des accords de coopération ou les associations qui ont leurs partenaires sur le terrain. C'est ce travail qu'on disait de collectif en fait pour s'assurer que les missions soient de la qualité, soient pertinentes dans un cadre sécurisé et tout à fait pertinent. Donc on travaille vraiment, pour nous c'est très important d'avoir cette notion de parcours et que les jeunes qui viennent sur le territoire français ou qui partent à l'international, que cette mission aussi, elle ait un impact pour le territoire et qu'elle puisse en faire bénéficier ensuite le territoire par les témoignages qu'ils vont faire, par les actions justement d'éducation à la citoyenneté qu'ils vont mener, etc. Donc ça, c'est de manière, je dirais, un petit peu globale. Et en fait, donc, dans tout ce panel-là, effectivement, on s'est questionné, on s'est rendu compte que souvent, les jeunes qui partent dans ce type de mission, c'est des jeunes diplômés, c'est des jeunes qui ont déjà finalement les ressources, je dirais, à la fois psychologiques et le cadre pour pouvoir partir. Et comment on fait avec des jeunes qui ont ce qu'on appelle moins d'opportunités. Donc, on a répondu en fait à un appel à projet de l'Agence du service civique, qui est soutenu aussi par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et je crois le ministère de la Jeunesse et en lien avec France Volontaire l'année dernière justement en proposant des missions et en travaillant avec les missions locales, donc la mission locale de Haute-Garonne et la mission locale de Montpellier, donc qui eux ont la compétence en fait d'accompagner des jeunes qui sont plutôt dans un parcours d'insertion, éloignés de l'emploi ou qui n'ont pas forcément de formation initiale, pour proposer des missions de service civique à l'international. Donc c'est des missions de 6 mois, avec un mois en démarrage d'un mois de préparation au départ, 4 mois sur le terrain et ensuite 1 mois au retour où justement les jeunes vont pouvoir intervenir et montrer l'impact de qu'a pu avoir cette mission. Donc là, c'est un projet qui démarre. Alors, je ne peux pas encore vous en donner les résultats. Les premières missions ont démarré là début octobre. Donc c'est 20 jeunes en tout sur l'ensemble du programme sur 2 ans. Donc là, il y a 10 jeunes qui viennent de partir, donc dont 2 qui sont partis au Maroc. Et ils partent en binôme. En fait, c'est ça aussi l'idée, c'est qu'ils partent pas tout seuls et qu'ils travaillent. Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir s'appuyer sur une structure dans le pays accueillant qui a l'habitude d'accompagner des jeunes qui sont en lien avec la jeunesse et qui puissent travailler sur les questions plutôt éducation populaire et sur des questions, là, il y en a les missions, c'est sur les questions environnementales, sur la question de développement et sport, sur la question des discriminations. Ils vont travailler pendant 4 mois pour des missions avec des jeunes et donc créer des liens aussi localement. Donc, je dirais pour les premières difficultés, je dirais qu'on a rencontrées effectivement, c'est toute la question de la préparation au départ, de bien prendre le temps en fait d'expliquer que les jeunes qui partent ne prennent pas ça comme un salaire, un emploi, qu'ils se mettent bien dans une disposition de qu'est-ce que c'est une mission de service civique ? Comment est-ce que à quoi je m'engage ? Toutes ces questions d'engagement, etc. On voit que c'est très important de bien préparer ça. Les questions de posture aussi, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on dialogue, quand on est en situation un petit peu de stress, parce que ça génère quand même pas mal de stress, notamment à l'arrivée, quand on ne connaît pas, quand on doit s'installer dans un nouvel endroit, donc où il faut, ça demande beaucoup plus de temps d'accompagnement, mais ce qui justement l'intérêt, c'est d'être en lien avec les missions locales qui ont l'habitude aussi de ce public. Et pour l'instant, en tout cas, voilà, les jeunes qui sont partis ont l'air contents de leur mission et très impliqués en fait d'être dans cette logique d'engagement et de travail pour une mission d'intérêt général.
Merci beaucoup, Maëlys Daboville, pour cette sensibilisation à l'accompagnement qui est nécessaire pour ces jeunes éloignés des études ou du travail. Alors, merci beaucoup à tous nos intervenants et intervenantes pour leurs éclairages successifs. Alors, sur ces éclairages et sur ces témoignages, y a-t-il des questions, des remarques que les participants, vous tous, aimeriez faire? Je peux passer avec le micro si vous voulez. On a peu de temps. Non.
Et juste signaler, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, qu'il y a eu un rapport aussi sur l'implication des jeunes dans les politiques de coopération et de solidarité internationale qui a été remis au CNDSI début 2024 et qui a notamment été co-présidé par le président d'Occitanie Coopération au nom de la CIRMA, où il y a beaucoup de recommandations en fait sur voilà, l'intérêt et un gros travail qui a été fait sur l'intérêt d'impliquer les jeunes dans nos politiques de coopération et de solidarité internationale et tout ce que ça pouvait apporter, notamment en termes de renouvellement des relations qui peuvent être nouées entre les territoires.
Merci beaucoup, Maëlys.
Bonjour. Oui, donc je suis Maëva Boitel de l'Union nationale des missions locales. Donc je crois que je ne pouvais pas ne pas réagir à tous ces propos. Donc voilà, c'est plutôt une réaction, témoignage. Effectivement, nous en tout cas, on a lancé aussi des travaux avec Cités Unies France sur ces enjeux-là. Nous avons eu le plaisir de participer à une journée thématique donc de la dynamique jeunesse EXI. Et donc c'est vrai, je ne peux que vous rejoindre sur cet enjeu. Donc nous sommes le réseau qui accompagnons ces 1,1 million de jeunes par an qui sont donc dans des parcours d'insertion socio-professionnelle. Et donc un des enjeux, en tout cas d'ailleurs, n'hésitez pas à venir à ma rencontre après. Donc moi je suis en charge du développement des projets internationaux justement. Un des enjeux, c'est ce que disait aussi tout à l'heure Flavie Bokenoufa en introduction, c'est de rendre en fait la mobilité internationale accessible à ces jeunes qui en sont donc les plus éloignés, donc les NEETs ou les JAMO selon la terminologie qu'on veut employer. Et effectivement, je pense que nous c'est des exemples d'ailleurs donc de ce qui peut se passer en Occitanie avec des missions locales. Donc ça prend effectivement un peu plus de temps et aussi de cadrage pour que ces jeunes qui potentiellement ont des freins plus grands que d'autres à se diriger vers l'international puissent y accéder. Mais en réalité, on se rejoint tous aussi avec Pierre Revel, également France Volontaire, sur le fait que ça peut avoir un impact très important sur les parcours de ces jeunes. Et donc, nous, l'enjeu aussi, avec tout le réseau de Cités Unies France, c'est de pouvoir faire ce rapprochement d'inviter en tout cas les collectivités que vous êtes certainement en très grande majorité ici à éventuellement aller vers les missions locales pour construire des projets d'action internationale qui embarquent aussi ces jeunes qui sont éloignés mais pour qui l'enrichissement va être énorme et puis également qui vont aussi apporter un enrichissement sur le terrain qui peuvent visiblement aussi se recroiser assez fortement avec les jeunes qui peuvent croiser sur les terrains, qui sont dans des situations potentiellement similaires. Donc voilà, c'était plus un témoignage. Merci. Comme j'ai le micro, je ne sais pas s'il y a des... Je peux... Voilà.
Ben merci beaucoup. C'est vrai que c'était l'intervention à faire. N'hésitez pas, il reste encore le temps pour peut-être une ou deux interventions et puis après on va conclure. Ah, ben au fond.
Oui, bonjour à tous. Samuel Le Floch, je travaille à l'agence du service civique et plus précisément au centre de ressources de Salto-Hurmet qu'a évoqué notre collègue de France Volontaire. Le centre Salto Euromède développe les deux programmes qui ont été cités, enfin un programme qui a été cité, qui est le Corps européen de solidarité dans la zone Sud-Med. Et nous développons aussi le programme Erasmus+, jeunesse et sport. Donc je précise, ce n'est pas Erasmus, éducation, formation. On est vraiment sur le travail de jeunesse l'éducation non formelle, donc hors académique. Mais à travers les différents témoignages que j'ai pu écouter, je pense que ce serait... Alors on a notre stand qui est tout au fond. Je vous invite à venir nous voir dès que c'est possible pour vous expliquer comment on développe ces deux programmes dans la zone Sud-Med, à la fois sur la mobilité individuelle via le Corps européen de solidarité, mais aussi la mobilité de groupe, la mobilité via des échanges de jeunes qu'on peut mettre en place entre deux collectivités territoriales, par exemple. Et puis aussi, ce qui est intéressant par rapport à certains témoignages, la mobilité des professionnels de jeunesse, donc des travailleurs de jeunesse, et par extension, on peut aussi y appliquer le travail social en direction des jeunes. Et dans ce contexte qui a été évoqué de difficultés financières au national, les financements européens peuvent peut-être aider à trouver d'autres voies de financement et d'autres solutions. Donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le Floch. On va prendre l'intervention du fond, et puis après, Chokri, et puis après, on va conclure.
Bonjour, Michel Sabatier, je suis responsable des relations internationales de la ville de La Rochelle et nous avons une coopération avec la ville d'Essaouira, ancienne, et que nous essayons de relancer quelque peu. Est-ce que vous avez, parmi les collectivités locales et autres intervenants, est-ce qu'il y a des exemples réussis de coopération entre centres de formation des apprentis ? Est-ce que les centres de formation des apprentis de vos territoires ont pu collaborer en acceptant des apprentis des pays avec lesquels nous coopérons, voire même en acceptant d'implanter des filiales, si je peux dire, dans le territoire du partenaire de coopération. Il y a un fort besoin de formation des apprentis, en tout cas à Essaouira, et j'imagine comme dans l'ensemble du Maroc. Est-ce qu'on peut y répondre par une application plus grande de nos CFA qui, à ma connaissance, ne sont pas particulièrement internationalisés, mais je ne demande qu'à être démenti.
Alors, nous, on a une expérience, pas de CFA à CFA, mais en tout cas d'accompagnement de l'implantation d'une maison familiale et rurale dans notre région partenaire de Mauritanie au Gorgol par le réseau des MFR de notre région. Donc voilà, pour créer de la formation agricole sur le territoire du Gorgol à destination des jeunes, puisque c'est une voie d'insertion professionnelle importante au Gorgol, mais pas d'expérience avec des CFA encore.
Je pense que c'est je crois qu'il y a plus d'expérience avec les lycées agricoles, donc où là c'est plus dans leur ADN, je pense, de développer, et donc je pense que les échanges sont plus construits, mais j'ai pas forcément de ou alors ce sera des mobilités peut-être plus courtes.
Pour les lycées agricoles, je confirme ce que dit Malice. Effectivement, on a des volontaires marocains en particulier qui sont accueillis cette année au sein de lycées agricoles de l'enseignement public. Et donc, voilà, ça oui. Par contre, CFA, je n'ai pas d'exemple en tête. Je peux me renseigner. Éventuellement, vous pouvez en échanger avec mon collègue Christophe Ressiguier, qui est responsable territorial sur les régions Ouest, qui est basé à Nantes, qui peut-être aura connaissance d'une expérience associée dans les CFA.
Je crois qu'il y a eu une expérience de la région Occitanie il y a quelques années, mais je n'ai pas plus de détails où il y avait un projet d'échange de mobilité.
Une mobilité internationale de jeunes concernant les jeunes en CFA, oui, mais voilà, j'ai pas le détail non plus de cette expérience-là. Et je ne suis pas sûr qu'elle concernait forcément la Méditerranée, peut-être quelqu'un dans la salle le sait.
Juste pour répondre un autre point de vue opérateur, mais la jeune fille dont on a vu la vidéo est en CFA. C'est un CFA électricité de bâtiment qu'on a créé avec l'aide d'inspecteurs académiques de Paris. Nous, on a aussi des partenariats avec les collectivités à travers l'approche pédagogique. On a des inspecteurs qui vont nous aider à certifier le référentiel. Nous, les échanges au niveau des CFA sont entre formateurs. On a beaucoup de mal à faire des échanges dans les CFA concrets entre jeunes. Alors pourquoi ? Je vais vous dire un point de vue un peu pragmatique, mais c'est que les jeunes qu'on voit, ils ont des rythmes d'alternance, d'apprentissage. Ils sont 80% du temps en entreprise, 20% à l'école. C'est pas facile d'adapter le système, que ce soit les Français ou les Marocains, là, en l'occurrence la Marocaine, parce qu'après, ils vont vite intégrer un chantier. Là, l'électricité du bâtiment, si elle trouve un chantier 2 mois après, elle l'intègre. Donc on a souvent assez peu de vision dans les prochains mois. Voilà. Bon, ça, c'est une vision un peu opérationnelle. Mais déjà, entre formateurs, c'est extrêmement utile dans les CFA. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup.
Merci à tous. On va prendre une dernière question ou intervention de Chokri Badreddine, adjoint maire de Voiron et futur président du groupe thématique jeunesse.
Merci Thomas. Bonjour à tous. Donc, ma présentation a été faite. Donc adjoint à la jeunesse et puis aux relations internationales sur la ville de Voiron dans le département de l'Isère. Juste deux témoignages sur cette thématique, sur le travail qui est mené sur notre territoire en termes d'échanges aussi. Le premier sur la question de la solidarité internationale et puis notamment la notion de chantier qui permet vraiment aussi aux jeunes au retour de grandir et d'évoluer. Nous, on l'a eu, et puis je tiens à remercier aussi le dispositif Solidarité Internationale Ville Vie Vacances qui nous a soutenus par l'intermédiaire d'une association locale avec qui on a travaillé sur la ville de Voiron en destination de Cuba. Et j'insiste là-dessus fortement, et j'en fais aussi la promotion, à l'heure où les crédits sont vraiment à la baisse, n'hésitez pas à vous organiser et à vraiment travailler aussi en lien avec les structures associatives de vos territoires, parce qu'elles sont aussi, c'est aussi un vivier de ressources et de capacités à pouvoir se mobiliser sur ces projets-là. Et puis le deuxième, c'est avec Monastir en Tunisie, sur principalement cette thématique. Elle m'a interpellé puisque j'ai été sollicité moi directement par un jeune qui a parcouru tous les projets que nous avons pu mener avec le conservatoire de Monastir notamment. Et ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on travaille avec eux. Et qui est dans une logique de complètement déscolariser et nous a interpellés, sollicités, nous, ville de Voiron, sur ce sujet-là. Et pour le coup, j'ai rebondi sur vos propos par rapport à ce volontariat-là, puisque j'avais aussi, de mon côté, sollicité Samir Erkoche de l'ambassade de France et de l'Institut français, qui est pour le coup aussi aujourd'hui, et que je remercie. Très sincèrement, puisqu'on a encore eu aussi des péripéties sur la question des visas, vous l'évoquiez tout à l'heure. Et croyez-moi, je l'ai dit l'année dernière, c'était une autre personne. Cette année, c'est encore une autre personne. Et bien, franchement, ils sont vraiment efficaces sur ce sujet-là, parce que des miracles, ils en ont créé. Et avoir la possibilité de nos partenaires qui puissent venir en France, c'est aussi un élément qui a son importance. Donc, pour le coup, nous, on est vraiment aujourd'hui sur cette question-là, en tout cas sur un jeune concerné. Et du coup, l'idée, c'est aussi de voir comment on peut l'accompagner et le tirer vers le haut pour lui permettre de pouvoir réaliser un stage ou une immersion dans un environnement qu'il souhaite et qui va lui redonner sens dans sa capacité à pouvoir se remobiliser lui-même pour ensuite pouvoir retourner en Tunisie et dérouler le chemin de sa vie. Voilà.
Bien, merci beaucoup Chokri. Je crois que c'est le temps du mot de la fin. Donc, j'invite Ada Bekouche, adjoint au maire de Colombes et président du groupe Pays Tunisie, à nous le donner.
Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si je vais donner le mot de la fin, mais c'est beaucoup plus des questions que j'avais identifiées par rapport aux différentes interventions qui sont très, très parlantes, en tout cas, et assez significatives et expressives. Mais ce qui m'a frappé le plus, en commençant par le début, c'est que la jeune femme, la jeune fille qui était interviewée, donc elle avait un mot à la bouche qui m'a interpellé, c'est la question de la confiance. Donc la question de la confiance, c'est la confiance en elle-même, mais également la confiance en les acteurs qui sont localement investis. Et puis la grande confiance ou la confiance première qu'on doit soulever, c'est celle des institutions. C'est celle des institutions publiques, mais également aussi des acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés ou associatifs. Sachant que l'exemple est assez frappant parce que le Maroc a une spécificité, c'est qu'il a un tissu associatif particulièrement développé. Et ça, je pense que c'est un bon exemple. C'est un bon exemple que les autres pays du sud de la Méditerranée peuvent s'en inspirer. Et ça, c'est particulièrement important. Donc, voilà ce qui m'a, ce que j'ai relevé, ce qui a attiré mon attention. L'autre question qui me vient à l'esprit suite à ces différentes interventions, c'est la question des compétences des collectivités territoriales. Et donc, il y avait plusieurs problématiques qui ont été soulevées, la question de décrochage, la question des stages, la question aussi des ressources matérielles et immatérielles dont disposent les jeunes pour se déplacer à l'étranger, pour faire un stage à l'étranger ou pour faire un volontariat. Et nous ne sommes pas tous munis des mêmes ressources vis-à-vis de ce type d'aventure ou de ce type d'entreprise. Et effectivement, par exemple, les diplômés ou ceux qui ont un peu plus de ressources sont beaucoup plus aptes à se déplacer et quid des autres. Et c'est pour ça que je reviens aux questions de compétences. Autant, je pense, toutes les collectivités, les niveaux de collectivités peuvent être intéressés par cette démarche, aussi bien les régions, les communes, les départements, les intercommunalités. Parce que, par exemple, sur la question de la formation professionnelle, ce sont les régions qui ont la main. Et dans ce cas-là, je pense qu'il est important que les régions soient impliquées. Donc, on a un exemple là, donc c'est très, très bien. Donc, même on en a deux, si je puis dire, parce qu'il y a le soutien des régions derrière. Et donc, et moi, ce qui m'a interpellé aussi, ce qui me pose question, c'est l'implication des communes à travers les missions locales. Sachant que les missions locales ont une existence assez longue, si je puis dire, et des expériences assez importantes. Et là, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser, à savoir des coopérations déjà entre collectivités territoriales françaises pour mener ce type de mission. Et encore une fois, donc, dans ce type de mission, il y a la question des collectivités territoriales et l'implication des collectivités territoriales en tant qu'acteurs des territoires. Il n'y a pas mieux que les collectivités territoriales pour mobiliser les acteurs, tous les acteurs, au niveau de leur territoire de compétence pour le développement local. Ça, en ce qui concerne la France. En ce qui concerne l'étranger et les coopérations, je pense que c'est autre chose encore. Et dans ce cas-là, je pense que aussi bien les différentes agences ou les différents instruments de l'État, en tout cas, sont les bienvenus. Et donc, il y a une coopération à créer, à développer quand ça existe, entre ces différents acteurs. Pour ne pas être trop long, La question qui se pose, c'est aussi la question de la mobilité entre ces pays, entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. Et donc, l'exemple marocain, par exemple, a été fort instructif en ce qui me concerne. Et dans les derniers mois et la dernière année, il y a eu quelques froids entre les autorités marocaines et les autorités françaises au niveau diplomatique. Et on apprend que la région de Fès-Meknès, par exemple, je ne sais pas si elle s'était auto-censurée ou bien elle a reçu des instructions de la part de l'État central marocain pour dire pas de coopération ou suspension des liens. Donc voilà. Mais en tout cas, s'il n'y a pas l'appui de l'État, s'il n'y a pas une certaine, et puis l'appui de l'État, mais une certaine liberté des collectivités territoriales et des acteurs de cette coopération, donc les choses ne peuvent pas avancer. Et dans ce cadre-là, cette liberté et cette autorité, en tout cas cette capacité d'agir des collectivités territoriales et des acteurs mobilisés autour des collectivités territoriales ou eux-mêmes à l'aide des soutiens de l'Union européenne, par exemple, ou d'autres, s'il n'y a pas ça, ça ne peut pas marcher. Mais il y a un autre élément très très important et qui est beaucoup plus problématique aujourd'hui, quels que soient les efforts des personnes, mais également des institutions et des représentations diplomatiques et consulaires de part et d'autre de la Méditerranée, c'est la question de la mobilité. Donc voilà, aujourd'hui, la question de la mobilité est un problème qui se pose de manière cruciale, qui s'est aggravé depuis longtemps, en tout cas, et qui n'a pas cessé de s'aggraver, et qui risque de s'aggraver encore plus si nous, acteurs de la coopération décentralisée, de la solidarité internationale en général, nous ne nous mobilisons pas et nous ne nous saisissons pas de ce problème-là pour le porter le plus haut possible au niveau de l'État et au niveau, quand je dis au niveau de l'État ici et au niveau des États en face. Donc voilà les quelques mots que m'inspirent vos différentes expériences, même si ces actions sont plutôt porteuses d'espoir, en tout cas, et j'espère qu'elles vont se développer. Mais il faut qu'en tout cas, quand on parle de diplomatie des territoires, notre mobilisation est indispensable pour sensibiliser un peu plus les acteurs déterminants dans les différentes coopérations. Je vous remercie. Alors, Thomas vient de me dire peut-être qu'il y a lieu de dire quelque chose sur les actions de Cités Unies France. Moi, en tant que président du groupe Pays Tunisie, avec Cités Unies France et au sein de Cités Unies France, nous projetons de nous rendre en Tunisie pour sensibiliser les acteurs des collectivités territoriales, particulièrement sur la coopération franco-tunisienne, la coopération décentralisée franco-tunisienne, mais aussi pour faire un plaidoyer auprès des autorités tunisiennes dans la transition politique que connaît la Tunisie, pour dire que nous tenons à ce qu'il y ait une coopération décentralisée franco-tunisienne et que nous tenons également de ce côté de la rive nord à ce que cette coopération puisse non seulement être maintenue, mais se développer. Et puis on peut parler de ce type de problématique dans tous les pays de la rive sud de la Méditerranée, et particulièrement ce que fait la France avec ces pays-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle des collectivités et l'action des collectivités territoriales est primordial dans le maintien des liens entre la France et entre ces pays avec lesquels on a des liens historiques très très forts, des liens économiques, des liens sociaux, je dirais même parfois des liens familiaux qui sont très 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 important.
Merci beaucoup Ada, et d'ailleurs pour rebondir, donc, cette mission elle se fera du 9 au 11 décembre et elle n'aurait pas pu se faire sans le soutien et l'appui de l'ambassade de France en Tunisie, et je remercie Samy Erkoff qui est parmi nous. Et elle s'adresse à tout type de collectivités françaises, qu'elles aient déjà des actions, des partenariats actifs en Tunisie, comme souhaitant relancer les partenariats existants qui ont peut-être été un peu endormis ou nouer de nouvelles coopérations. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre les documents qui sont à la sortie de la salle sur la table à côté et à revenir vers moi. Et puis sur une autre note beaucoup plus dramatique sur le Liban, Cités Unies France a ouvert un fonds de solidarité Liban. C'est le troisième qu'on ouvre sur le Liban depuis les 15 dernières années. Le dernier ayant eu lieu de 2020 à 2022. Donc cette fois-ci, comme pour les autres fonds de solidarité, on est dans une phase de collecte. Donc les collectivités françaises peuvent abonder ce fonds dont les actions seront mises en œuvre selon ce qui sera décidé par vous, les donateurs, et puis par les collectivités libanaises qui ont besoin d'un appui, notamment sur la question des déplacés, sur la sursaturation des infrastructures ou sur d'autres thématiques à discuter ensemble. Voilà. Merci à vous pour votre présence et puis on peut se retrouver, c'est pendant la pause café.